De Jean-Louis Etienne, on connaît l'homme du pôle Nord en solitaire, des traversées du Groenland ou de l'Antarctique, l'explorateur des déserts blancs. On connaît moins l'homme du végétal et des forêts, car le médecin voyageur est aussi fasciné par les arbres et la question des bois. Il publie « Aux arbres citoyens », un livre dans lequel il raconte sa passion pour les écosystèmes forestiers. Il est notre invité dans un instant pour discuter de son lien aux arbres, de son intérêt pour leur mécanique vivante et sur la façon de renouer avec ces géants de la nature. Vous pouvez poser toutes vos questions à Jean-Louis Etienne dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr également et sur le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert de l'actu dans quelques minutes avec vous.
Oui, un petit tour de l'actualité de la planète ces derniers jours avec de bonnes nouvelles en plus.
Et ça nous fera du bien. Bonjour Caroline Tourbe.
Bonjour Mathieu.
Dans la deuxième demi-heure, on retrouve votre chronique détox.
Oui, je vais vous parler pêche, agriculture, alimentation. On verra qui seront les grands gagnants, les grands perdants des changements climatiques qui nous attendent.
Vos solutions pour la planète, on fera connaissance avec Claire, une auditrice qui a créé une association pour restaurer des jouets et créer des emplois. Et puis enfin, notre invité découverte est le naturaliste Stéphane Carbonneau pour parler de l'ours. Vivre avec cet animal est-il possible? C'est la question qu'il aborde dans la revue La Salamandre. Et puis, à la toute fin de la Terre au Carré, je vous présenterai Élodie Font qui prendra les commandes de l'émission pendant toutes les vacances. Voilà donc pour le sommaire complet de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec la technique Anne-Laure Cochet et Serge Viguier.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré, sur France Inter.
Jean-Louis Etienne, l'homme qui est arrivé à pied au pôle Nord géographique, ne parvient pas à repartir, figurez-vous. Il est toujours prisonnier du mauvais temps et dérive sur son glaçon, pris dans les courants marins. Notre envoyé spécial, Pascal Deschamps.
Jean-Louis Etienne est en train de battre, malgré lui, un nouveau record. Voilà maintenant 55 heures qu'il a planté la tente au pôle Nord. Aucune expédition n'était restée aussi longtemps. Personne ici ne peut dire quand l'avion décollera de Resolute Bay. Le solitaire de la banquise a commencé à réduire ses rations de nourriture, devenues trop riches en calories pour un homme au repos. Il lui reste de quoi tenir encore 3 ou 4 jours. Mais on comprendra qu'il lui tarde de saper le champagne qui attend, bien au frais, le départ de l'avion.
Voilà, je reçois l'homme qui dérive sur des glaçons, Jean-Louis Etienne. Enfin, ça, c'était il y a un petit moment maintenant.
Oublié.
1986, bonjour à vous.
Bonjour.
Ça vous rappelle quoi quand on entend comme ça ces archives?
C'est un moment à la fois extraordinaire, parce que c'était un projet que j'avais à cœur de réussir, 63 jours. Puis c'était avant le GPS, avant le téléphone, donc c'était une immersion intense dans ce projet. L'arrivée au pôle Nord, c'est une libération, c'est un projet qui est lourd, difficile. Puis ce qu'elle raconte, c'est vrai, j'avais plus de nourriture, presque plus, et il y a un petit avion sur ski qui devait venir me chercher, qui ne pouvait pas venir à cause du mauvais temps. J'étais rationné, j'avais très très faim, je me souviens.
Ouais, donc médecin explorateur, vous étiez le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, donc en 1986.
Et puis elle dit, il a planté la tente, hein, il attend, mais vous plantez la tente, mais une heure après, vous n'êtes plus au pôle Nord. Il faut comprendre que le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé, recouvert par cette banquise dont on nous révèle tous les ans qu'elle régresse, si vous voulez, en surface. Et donc, si on voulait faire cette émission d'une heure, on va dire, il faudrait se déplacer, parce que ça arrive à dériver des fois de 5, 10 km par jour quand il y a du vent.
On est partant, hein, même de dériver, si on peut faire une terre au carré en direct avec vous de là-bas, moi je suis tout à fait pour. En attendant, vous publiez Aux arbres citoyens chez Paulsen, c'est un livre que vous consacrez donc à cette passion pour les arbres, la forêt et le bois en général, donc c'est changement de cap complet là finalement. Hein. On oublie les déserts blancs.
Oui, mais je passe ma vie quand même ici, hein. Je suis originaire de la campagne, du Tarn, Vielmur, petit village, j'avais les forêts et les champs derrière chez moi, donc j'ai toujours vécu dans la nature, et d'ailleurs la nature était, je dirais, c'était mon refuge, et j'étais très timide, et j'allais me réfugier dans la nature, au mois de mai, aller chercher les jeunes tourterelles des bois pour les apprivoiser, j'avais des choses comme ça, donc les arbres et la nature m'ont toujours bercé.
Et donc vous grimpiez aux arbres aussi pour suivre les oiseaux, hein, c'est ce que vous racontez?
Oui, c'est-à-dire que j'avais des oiseaux apprivoisés, des pies ou des tourterelles des bois, et donc pour les avoir toutes petites avant qu'elles prennent l'envol du nid, vous montez dans l'arbre et puis vous les prenez au nid, donc elles sont prêtes à partir. Et là, à ce moment-là, donc vous les apprivoisez. Et puis j'en avais plein, je les mettais sur la main, j'avais un champ derrière chez moi, je les mettais les tourterelles des bois sur le bois, comme ça, hop, elles partaient, elles faisaient 50 mètres, elles n'étaient pas habituées à voler. Puis j'avais un chien, une chienne fly, je dis, allez, va chercher. Et Fly allait les rechercher, donc elle les ramenait dans la gueule comme les chiens ramènent le gibier, ouais. Sans le mordre, sans rien, tourterelle, et recommencer. Voilà, donc je suis vraiment issu de la campagne, quoi.
Ce titre, Aux arbres citoyens, c'est un slogan, c'est une revendication qu'on entend beaucoup aujourd'hui.
C'est une bonne question. Moi, j'avais écrit ce livre, L'arbre et l'avenir de l'homme. Hein, Aragon, la femme, la Milan. L'arbre et l'avenir de l'homme. Et puis une soirée avec des copains de Pain du XI, j'ai fait la course autour du monde avec Tabarly, on s'était retrouvés, Lamazou, Poupon, et je leur raconte, je viens d'écrire un livre. Et alors c'est quoi L'arbre et l'avenir de l'homme, ça avait pas ému grand monde. Et en partant, je dis aux les gars, aux arbres citoyens. Et tous me disent à l'unanimité, mais
ça
bon,
y est,
ça,
tu l'as ton titre.
Ouais. Voilà.
Mais c'est vrai que c'est une formule qu'on entend aussi, qui est une formule, je le disais, de revendication,
oui,
de la part de citoyens qui s'émeuvent très facilement aujourd'hui du sort qu'on peut réserver aux arbres, en particulier quand on décide de les couper. Hein.
Oui, oui. Alors bien sûr, on a beaucoup parlé de la déforestation amazonienne, c'est ça qui alerte depuis longtemps. Dans les années 70, quand on a creusé l'Amazonie pour faire la transamazonienne, déjà, tous ces arbres qu'on enlevait, c'est là qu'on a commencé à parler du poumon, qu'on était en train de crever le poumon de la terre. Donc l'arbre fait partie de la vie de tout le monde, quoi. On va au pied de l'arbre, Brassens qui chantait son chêne. Enfin, c'est quelque chose qui... On ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont là, ils sont silencieux, mais ils rendent bien des services, quoi.
Ouais. Mais ça fait longtemps que vous vous y intéressez ?
Oui, alors...
D'une façon scientifique, parce que maintenant vous êtes vraiment plongé aussi dans...
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est fascinant. Déjà la photosynthèse, c'est quelque chose qui me fascine, qui fascine depuis toujours. Vous vous rendez compte, la capacité qu'ont les végétaux à se nourrir avec les racines dans l'eau et les sels minéraux, regarder le soleil, capter le gaz carbonique de l'air avec lequel ils vont faire le glucose, se nourrir et nous libérer de l'oxygène. Ça, c'est un des grands phénomènes de la nature, quoi. Donc, le végétal est intéressant. Et puis, le végétal, il a sa production, il assure ce qu'on appelle la production primaire, qui est le pilier de toutes les vies, qu'elles soient sur l'océan ou à terre. Donc, le végétal est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Mais la commande des éditions, c'est Paul Sen, l'éditeur. Et donc, moi, je bricole depuis toujours. Je travaille le bois.
Vous vouliez être menuisier, d'ailleurs. Hein.
Oui, mon bureau ici, que j'ai à Paris, c'est moi qui l'ai fait. C'est un magnifique plateau en orme, qui est un bois qui a disparu, d'ailleurs. Hein. Et donc, à l'origine, c'était, est-ce que tu peux pas me faire un livre sur le travail du bois, l'amour du bois ? Et donc, j'ai dit, écoute, je peux faire quelque chose, le bois, l'arbre et les cabanes. Et puis, je suis parti dans l'arbre, et là, j'ai déployé quelque chose, parce que c'est très pédagogique. J'ai voulu faire quelque chose de très pédagogique, que l'on comprenne, qu'on entre vraiment dans la biologie, dans la vie de l'arbre.
Mais on voit toutes ces publications qui sortent maintenant, et même cette popularité liée aux arbres, c'est très à la mode finalement l'arbre. Aujourd'hui, le public s'y intéresse parce qu'il le découvre en même temps, il les découvre, non ?
Il les découvre, il y a des livres qui ont eu un grand succès, effectivement, qui ont permis effectivement, à beaucoup de personnes d'entrer en communication avec l'arbre. C'est très ésotérique, même par moment, vous voyez, la relation à l'arbre, mais pourquoi pas, après tout, hein. Embrasser un arbre, un tronc d'arbre, comme ça. Alors, c'est vrai, moi, je le fais aussi.
Ça vous arrive de le faire,
oui. Ben oui, mais faites-le.
Vous leur parlez?
Pas autant. Mais, mais ça arrive, vous prenez un tronc d'arbre, vous voyez, entre les bras, comme ça, vous mettez votre...
Pas un séquoia, c'est trop large.
Ah, le séquoia. Mais...
Ouais.
En fait, et ce sentiment, effectivement, que quelque chose vous traverse, que vous êtes nourri par ça. Moi, j'attribue ça, si vous voulez, à des... Il y a toujours un peu de vent et quelque chose qui... Il y a un travail du tronc et des... Mais ça fait rien, c'est quelque chose qui est apaisant, donc pourquoi pas, après tout.
Est-ce que lorsqu'on passe justement beaucoup de temps dans les déserts de neige, on peut ressentir un manque du végétal et de la chlorophylle et...
100%.
C'est vrai ?
Écoutez, j'ai un souvenir. Pour le pôle Nord, j'étais parti 3 mois. À Resolute Bay, je suis resté un mois, etc. Et je suis rentré à Montréal, c'était la nuit, j'étais à l'hôtel, et le matin, donc ça fait 3 mois que je n'avais pas vu de nature, on m'a dit, et le matin, j'ouvre les volets de l'hôtel, ah, du verre. Je n'avais pas vu du verre depuis longtemps. Et ça m'a fait un choc, et je suis parti dans le Tarn, me reposer chez moi, et là, la forêt tarnaise m'est apparue comme la forêt vierge. Toutes ces espèces, tout ce qu'il y a. Puis c'était le mois de mai, il y avait l'herbe qui sentait, je me roulais dans l'herbe.
Ouais. Mais vous vivez quasiment dans la forêt vierge. Parce qu'on voit, la couverture du livre, c'est votre bureau, justement.
Le plus possible.
Dans le Tarn. Ouais. Donc ce sont de grandes baies vitrées immenses, noyées dans la végétation.
Voir sans être vu, c'était... Et en fait, j'ai toujours penser cabane, parce que je vous dis, j'aime le travail du bois, mais j'ai découvert ça en Californie, j'ai habité un peu en Californie, et donc j'ai découvert l'architecture libre, voyez, dans les bois, faite par des amateurs, et c'est avec un côté paradisiaque, je me suis dit, à l'occasion, je construirai ma cabane. Et voyez, le voyageur, il pense toujours, où est-ce qu'il va pouvoir poser son sac ? C'est le truc du voyageur. J'en ai trouvé des coins magnifiques, et un jour, en rentrant de la traversée de l'Antarctique, là du sud, je suis allé sur un coteau juste en dessus du village, mais je dis, mais c'est ici. C'est ici, et c'est là que j'ai fait, que j'ai construit cette cabane.
Alors, vous parlez de la Californie, vous citez les séquoias géants, justement, de Californie, qui sont des arbres totalement délirants, au fond.
J'étais il y a 2 ans, ils ont soif.
Ouais.
Ah ouais, le Colorado est en train de... Toute la région des montagnes, il y a beaucoup moins de neige. Et ce sont des arbres qui commencent à souffrir de la sécheresse.
Ouais. On parlera aussi des incendies, d'ailleurs, dans cette émission, dans quelques jours, parce que c'est aussi un des graves problèmes pour la végétation, pas seulement en Californie, mais ça les concerne aussi très très près. Jean-Louis Etienne, on va vous retrouver évidemment pour la seconde partie avec les auditeurs qui vont pouvoir également témoigner, pourquoi pas, nous raconter leurs propres histoires d'arbres, au 0145 24 7000. Un mot quand même sur ce philosophe américain, Henri David Thoreau, que vous citez, L'Alden ou la vie dans les bois, publié en 1854, parce que les propos, la philosophie même de cet auteur résonne tout particulièrement aujourd'hui, parce que dans son discours, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté, de la désobéissance aussi face aux injustices.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui que la société reprend aussi parfois. Hein.
Mais Walden, enfin, Thoreau m'a inspiré beaucoup plus jeune. J'ai trouvé une clé. Je me dis, ce gars, il se débrouille dans les bois avec une cabane qu'il a construite lui-même et se nourrissant, en fait, bon, il avait planté des choses, etc. Mais surtout, c'est cette nourriture, il cherchait, c'est un transcendentaliste, c'est-à-dire il cherchait la vibration, il cherchait entrer en communication intime avec la nature. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a inspiré d'abord chez Thoreau. Et effectivement, il a fait une désobéissance civile en s'opposant à l'exploitation des esclaves aux États-Unis. Donc il n'a pas payé ses impôts, c'était sa première désobéissance civile. Après, on en a fait aujourd'hui une idole de la désobéissance civile. Mais ça reste pour moi quand même un grand amoureux, quelqu'un qui est entré en relation intime avec la nature d'une manière exceptionnelle. Il le décrit très très bien dans Walden ou La vie dans les bois.
Et il a inspiré de nombreuses figures qui ont lutté évidemment pour la paix. Désobéir aux lois injustes, c'est un de ces grands messages philosophiques en tout cas. On vous retrouve dans un instant, Jean-Louis Etienne, avec les messages des auditeurs sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Et je vous présente Camille Cronier qui est en face de vous et qui va passer l'actualité justement de la planète au vert, parce qu'avec les grèves, Camille, il y a plein d'informations qui nous ont échappé.
Oui, par exemple, et ça va vous intéresser Jean-Louis Etienne, la plus vieille forêt du monde qui aurait été découverte dans l'état de New York aux États-Unis. Ce sont des scientifiques qui le disent dans la revue Current Biology. Forêt située dans une carrière à 40 km de celle de Gilboa, qu'on croyait jusqu'ici être la plus ancienne, 385 millions d'années. Celle-ci aurait 2 à 3 millions d'années de plus, avec davantage d'espèces comme l'Archaeopteris, premier arbre moderne qui pourrait aider à comprendre encore un peu plus les liens entre forêt et changement climatique. Le changement climatique dont personne ne connaît les raisons, ce n'est pas moi qui le dis, mais Vladimir Poutine hier lors de sa conférence de presse annuelle.
Personne ne connaît en réalité les raisons du changement climatique mondial. Nous savons que dans l'histoire de la Terre, il y a eu des périodes de réchauffement et de refroidissement, et cela pourrait dépendre de processus globaux dans l'univers. D'une légère inclinaison de l'axe de la Terre en rotation ou de son orbite autour du Soleil.
Vidéo diffusée et traduite par Euronews. Alors il déclare ça, le président russe, alors que Moscou ressent elle aussi les effets de ce changement climatique. Il a fait 5,4 degrés dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est beaucoup et du jamais vu depuis 133 ans qu'on relève les températures dans la capitale russe. Sans neige en ce moment et à ça non plus, elle n'est pas habituée.
Et des records, Camille, de température également en Australie.
Oui, avec 40,9 degrés en moyenne mardi, 41,9 mercredi, deux records en 2 jours au pays des kangourous, ravagé par des incendies monstres. Voilà, là, c'est le bruit des flammes, toujours incontrôlables. Au moins 3 millions d'hectares ont été brûlés depuis septembre. Et les hélicoptères et les avions qui tournent, en particulier dans l'état le plus peuplé, la Nouvelle-Galles du Sud, état d'urgence décrété. La ville de Sydney suffoque toujours, envahie par la fumée. On voit le ciel et le paysage jaune-orangé sur les images, c'est assez incroyable. Des dizaines de vidéos sont postées sur Internet.
Look at that. How good is that smoke, hein? look at that. Where the bloody hell are you?
Non, mais où je suis, dit cet habitant qui hallucine pendant que d'autres manifestent. Scomo est un branleur, voilà ce que chante la foule. Scomo, c'est Scott Morrison, le premier ministre australien, parti en vacances à Hawaï en famille. Pendant que ça brûle, il vient d'annoncer qu'il rentre. La pression citoyenne encore, mais en France avec l'affaire du siècle. Vous vous en souvenez, Mathieu?
Ah ben oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Hein.
C'était il y a un an, ouais. Pile presque, jour pour jour. 2,3 millions de signatures pour attaquer l'État et son inaction climatique. Il y a désormais un grand appel à témoignages pour cartographier les impacts climatique avec le hashtag témoin du climat.
Et vous avez d'ailleurs des nouvelles de nos dirigeants, Camille?
Oui, côté Union européenne, d'abord la Commission voulait réduire drastiquement la pêche du cabillaud en particulier, mais les États membres n'ont accepté de baisser les quotas que de moitié. Pendant qu'en France, le gouvernement serait en train d'essayer de préserver Total au sujet de l'exonération fiscale sur l'huile de palme pour les biocarburants, c'est ce que croit savoir Mediapart avec un document et c'est ce que dénoncent plusieurs associations. Enfin, la loi anti-gaspi adoptée par l'Assemblée nationale avec le fameux amendement, vous savez, sur la fin du plastique à usage unique en 2040 pour la France, eh bien le Canada, lui, l'a annoncé pour 2021. Vous savez ce que c'est, ça?
Jean-Louis Etienne.
La forêt.
Oui,
alors c'est le cri du râle de Guam, un oiseau d'une île du Pacifique, deuxième de l'histoire, dont l'espèce se rétablit après avoir été déclarée éteinte à l'état sauvage.
Et oui, ah oui, on a bien entendu rétabli. Hein.
Rétabli.
Donc ça va mieux.
Ça va mieux. Là, c'est une bonne nouvelle.
Bah oui,
il y en a.
C'est tellement rare.
Il y en a. L'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, a répertorié 10 espèces animales en voie d'amélioration au milieu des 30 000 en voie de disparition. Mais restons positifs. Hein. D'ailleurs, l'Académie des sciences de Californie, elle recense 71 nouvelles espèces, des poissons, des geckos, des guêpes, des fleurs et même des araignées comme la Lolacona voca. Elle est toute transparente, plutôt jolie. Et puis, une autre espèce, pour finir, messieurs, apparemment loin de la disparition, c'est l'Urechis copo. Est-ce que vous connaissez?
Non.
Bon, eh bien, allez voir sa photo
vous
sur franceinter.fr. Des poissons pénis, ils portent très bien leur nom, je vous l'assure. C'est des vers marins qui ont envahi une plage californienne il y a quelques jours, échoué après une tempête. Les goélands sont très contents, mais il n'y a pas que qui les mangent, hein, puisque le poisson pénis est un mets très apprécié, notamment en Asie. Mm-hmm. Il paraît qu'ils ont un petit peu le goût d'andouillette. Oh. Donc bon appétit.
Super. Bon, en tout cas, ils ont fait le tour des réseaux sociaux, ces poissons pénis.
Oui.
Et on vous a mis la photo, si vous ne les avez pas encore vus, sur la page Facebook de la Terre au Carré. Voilà, on peut réécouter ce journal de l'actualité écologique, Camille, évidemment, sur franceinter.fr. Qu'est-ce que vous...
Il y a beaucoup de choses.
Oui, c'est ça.
Je pense que Poutine a passé un deal avec Donald Trump. C'est une évidence pour raconter une bêtise pareille.
Les deux plus grands climato-sceptiques.
Je pense, oui. Et derrière, il y a peut-être un échange que l'on ignore, mais je pense qu'il y a de cette nature-là. En plus, l'année dernière, quand Donald Trump, il faisait froid à Chicago l'année dernière, à New York, il dit, regardez comme il fait froid, on nous parle du réchauffement climatique, il fait tout le temps froid à New York, pas en ce moment, mais parce que c'est du climat terrestre. Il oublie de dire une chose, et ce que vous avez révélé, c'est qu'au même moment, en Asie du Sud-Est, en Afrique du Sud, en Australie, il y a des sécheresses et des canicules énormes. Il ne faut jamais résumer la situation au temps qu'il fait.
Oui, bien sûr.
Et c'est en général là que ça se résume, quoi. Et la Terre s'est réchauffée de 1 degré en un siècle. Personne ne peut percevoir l'élévation moyenne de la température de 1 degré en un siècle.
Bon, et je rajoute une petite information qui vient de tomber, c'est que la Cour suprême des Pays-Bas a confirmé un jugement qui ordonne à l'État néerlandais de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici l'année prochaine. C'est une procédure historique portée par une organisation environnementale.
Voilà, la justice donc maintenant qui s'en mêle et pour le meilleur. Hein,
c'est quand même c'est l'affaire, mais c'est quand même l'équation du siècle pour moi. C'est une équation, c'est beaucoup plus qu'une affaire. Comment est-ce qu'on va passer, si vous voulez, des énergies de stock, hein, pétrole, gaz et charbon, qui aujourd'hui couvrent 80% de nos besoins énergétiques, presque 100% du transport, à la même quantité de production énergétique avec des renouvelables, sachant qu'ils sont intermittents, si vous voulez, et à une faible densité. Donc, en faisant croire aux gens de temps en temps qu'on va tout d'un coup aller vers le meilleur du monde et que ces pêcheurs de tourner en rond seraient les politiques, l'affaire, c'est beaucoup plus compliqué que ça, vous voyez. Je vous donne juste un exemple. Pour faire tourner le métro et le RER à Paris, quand ils tournent, hein, mais ils font des 400 éoliennes de 2 mégawatts. Les 2 mégas, c'est celle qu'on a dans nos campagnes. 400 éoliennes entre 15 et 20 km/h de vent. Donc vous êtes dans le métro, Mathieu, et puis on est dans le tunnel. Mesdames et messieurs, le vent va de s'arrêter. Voilà. Vous voyez, l'interrogation, c'est qu'est-ce qu'on met tout de suite, parce que personne ne va vouloir rester dans le tunnel.
Puis c'est bientôt, hein, c'est 2050 quand même, pour parvenir à tous ces résultats.
La neutralité carbone, c'est 2050. Ouais. Donc
c'est rapide.
C'est à la fois comportemental, mais c'est aussi très technologique, là, l'évolution.
Vous pensez qu'on va y arriver ou pas, vous ?
On peut y arriver. Je dis tout le temps, on a la conscience de la situation maintenant, on a l'intelligence des solutions. Mais il faut avoir l'audace de les mettre en œuvre. C'est une audace qu'il faut mettre en œuvre. On peut y arriver. Si on fait tout ce qu'il faut, on peut y arriver. Mais ça demande à ce que chacun soit efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence dans ses choix personnels, des choix de vie, familial, professionnel, politique. Si chacun est influent sur sa part de segment, on peut arriver.
Et les arbres pourraient même nous aider. On en discutera avec vous tout à l'heure, Jean-Louis Etienne. Aux arbres citoyens, paraît chez Paulsen, et vous êtes notre invité avec les messages des auditeurs. 01 45 24 7000.
Pourquoi ai-je glissé ma langue dans le passage étroit qui conduit à la gangue de ta bouche? Pourquoi ai-je glissé ma langue? Je m'en mords les doigts. J'aurais dû cette langue la tourner cette fois, car me voici exsangue. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pourquoi, pourquoi ai-je touché ton corps? Ce geste maladroit, je le regrette encore. Ton corps si chaud, pourquoi a réveillé un mort? Comme je maudis mes bras et leurs piteux efforts, je suis parti tout droit dans le décor. Et depuis, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Croiser ta route, qui donc a fait de moi ce petit tas de doutes? Est-ce toi et pourquoi? Faut-il que tu t'en foutes, que tu me laisses là? N'entends-tu pas? Écoute, mon cœur tambour qui bat annonce ma déroute. Infini, pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix. Pas plus le jour que la nuit, je ne trouve le repos ni la paix.
Et c'est Alex Baupin sur France Inter avec Pas plus le jour que la nuit.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Jean-Louis Etienne qui publie Aux arbres citoyens pour renouer avec l'écosystème Terre, cette position Paulsen. Et Isabelle, une auditrice, nous dit que Yannick Noah a sorti il y a plus de 10 ans une chanson très d'actualité qui s'appelait exactement comme
absolument, il y a 10 ans. Je l'ai prévenu, Yannick, donc je lui ai informé qu'il y a un livre qui portait le titre de sa chanson.
Voilà, mais c'est une formule qui maintenant est utilisée, dont tout le monde s'est emparé. Avec les messages des auditeurs au standard, comme Bernard, qui est avec nous et qui nous a appelé aux 01 45 24 7000. Bonjour Bernard.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, nous vous écoutons. Jean-Louis Etienne vous écoute.
Bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde. Moi, ça fait 30 et quelques années que je suis en Dordogne. Et on voit les forêts se détruire complètement, quoi. Parce qu'il y a tous les châtaigniers qui crevaient déjà avant. En plus, maintenant, il y a une mouche asiatique qui vient pondre dans les bourgeons et qui tue les feuilles. Donc, ça fait pourrir ça tue les arbres. Il y a les chênes très vieux qui deviennent malades aussi. Les forêts sont plus entretenues. On appelle des machines pour couper les bois. Il faut qu'ils coupent 200 mètres cubes par jour pour que ça soit rentable. Donc, ils font ça un peu n'importe comment. Enfin, ça devient, je trouve, depuis 30 ans, quoi. La Dordogne a carrêmement changé de
physionomie, alors, si je comprends bien.
Ouais.
Alors, Jean-Louis Etienne, pour répondre à Bernard, qui fait un état des lieux très peu réjouissant.
Ah, il est très peu réjouissant.
De son environnement en direct.
Oui.
Hein.
Heureusement qu'on avait des bonnes nouvelles. Hein.
Oui.
Non, c'est une observation aussi.
C'est une observation. C'est pas partout pareil. C'est vrai qu'en plus, on peut se dire qu'on est un des pays parmi les plus boisés. Et la gestion des forêts faite par l'ONF est assez bien, mais il y a beaucoup de... Si vous voulez, en France, on a beaucoup de forêts privées qui sont effectivement plus ou moins bien gérées, quoi. Mais en fait, d'une manière générale, il y a des arbres qui sont malades. Vous avez les arbres le long du canal du Midi, par exemple. Ces magnifiques platanes qu'on doit abattre.
Et chez vous, dans le Tarn, alors, vous avez
Les ormes ont quasiment disparu, mais il y a quelques temps déjà. J'ai réussi à me mettre de côté. Mais bon, les arbres aussi vieillissent et meurent, comme nous.
Mais ce sont des êtres vivants. C'est bien ce qu'on a découvert avec les scientifiques. Ouais. C'est quoi votre essence d'arbre préféré, vous, Jean-Louis Etienne?
Alors, j'ai beaucoup aimé l'eucalyptus. J'habitais en Californie, il y a des forêts d'eucalyptus. Qu'est-ce que ça sent bon.
Son parfum extraordinaire.
Son parfum, ça sent bon. Et j'habite dans le Tarn, dans des forêts de chênes pubescents. Ce sont des braves chênes. Non, j'ai dit braves, ils sont pas énormes, vous voyez. Ils sont costauds, c'est du quercus, quoi. Hein, c'est un rustique.
Ouais.
Et alors, ce que j'ai découvert en écrivant ce livre, c'est qu'un arbre, un chêne, celui que j'avais, transpire 250 litres par jour.
Oui, c'est vrai.
Une forêt de hêtres transpire 40 tonnes à l'hectare. Non, 25 tonnes à l'hectare. C'est énorme. C'est là qu'on se rend compte que l'arbre, déjà, le degré d'hygrométrie qu'il donne. Et puis,
c'est ça que c'est important d'en mettre dans les villes aussi. Hein,
mais absolument.
Le réchauffement des villes.
Et puis, ça fera de l'ombre sur ce sol qui est noir, qui capte la chaleur. Donc, la transpiration, puis ce sont des êtres vivants pour le sol, quoi.
On a Cédric qui est également en ligne de la Terre au Carré au Standard. Bonjour Cédric.
Oui, bonjour.
Bienvenue
bonjour.
À vous, on vous écoute. Vous êtes où d'ailleurs en France?
Merci. Alors moi je suis dans le Lot.
Très bien.
Pas très loin de Rocamadour, à mi-chemin entre Rocamadour et Sarlat.
Parfait.
Voilà. Et c'est plus pour apporter un témoignage, donc j'écoutais ce que disait Jean-Louis Etienne, ce qui est très intéressant et fort vrai. Et là, les dernières minutes, j'entendais aussi où il parlait de transpiration. Donc ce sont vraiment nos climatiseurs, les arbres. Et actuellement, il s'avère qu'en France, il y a des abattages massifs qui se font dans des zones urbaines et périurbaines pour des arbres qui sont soi-disant malades.
Mmh.
Alors il faut savoir que ces arbres, malgré tout, maintiennent une fraîcheur dans les dans nos villes. Mais ils abritent aussi tout un écosystème. Des oiseaux et beaucoup de chauves-souris aussi. Et nous, on a une hécatombe au niveau des chauves-souris qui commence vraiment à plus avoir de milieu pour nicher. Et voilà, ça devient vraiment catastrophique.
Et vous avez raison, on s'en est fait l'écho.
C'est une méconnaissance de l'arbre.
C'est des gîtes et le couvert de la biodiversité, l'arbre. Il y a l'agroforesterie, c'est quelque chose qui va réunir, je crois, l'agriculture et la nature, parce que l'arbre, il amène énormément de choses sur le sol. L'agroforesterie, vous avez des champs immenses qui sont des grands déserts. Aujourd'hui, il n'y a pas un oiseau qui se lance là-dedans, même pas un lapin, vous voyez, il n'y a rien, avec des sols qui sont nourris artificiellement. Vous mettez des rangées d'arbres assez espacées pour que les moissonneuses-batteuses puissent faire la culture. Et là, l'arbre va réenrichir le sol, va faire revenir les vers, toute une faune. D'abord, il stocke le carbone. Quand vous achetez une planche de 2 kilos, vous achetez 1 kilo de carbone, vous voyez. Donc ça stocke et ensuite, les arbres, les feuilles sont le gîte, je le répète, de la biodiversité.
Il y a quoi derrière le titre de votre livre, Aux arbres citoyens? C'est quoi? Qu'on doit s'en remettre à eux ou qu'on doit les défendre?
Ben tout. Aux arbres citoyens, qu'on doit les défendre, qu'on doit les aimer, qu'on doit planter. Je n'arrête pas de dire qu'il faut en planter partout où on peut en planter. Et il faut varier les espèces, c'est ça qui est important. On voit des monocultures d'arbres, effectivement, parce qu'il y en a qui cultivent les arbres comme on cultive du blé ou du maïs, pour des revenus, si vous voulez. Mais sur la forêt sauvage, il faut effectivement maintenir une diversité, c'est ça qui est important.
Et renouer avec cet écosystème.
Mais oui, parce que c'est la production primaire, l'arbre. Et la production primaire, c'est tout ce qui est le point de départ de toutes les vies. à terre comme en mer. Et donc c'est renouer avec l'écosystème terre. L'arbre est un moyen parce qu'on sait tous planter un arbre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas très compliqué si on s'y met chacun.
Merci beaucoup Jean-Louis Etienne d'être venu dans la Terre au Carré aujourd'hui aux arbres, aux citoyens. Donc ce livre paraît chez Paulsen et merci à Cédric, notre auditeur qui était avec nous il y a quelques minutes. Juste après les informations, ce sera la chronique détox de Caroline Tourbe. Caroline qui nous dira si le changement climatique va bouleverser notre alimentation. Bon après-midi à tous, il est 14h.
France Inter, la Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète, avec aujourd'hui Claire, une auditrice qui a créé une association pour restaurer des jouets et créer des emplois. Et puis enfin, notre invité découverte est le naturaliste Stéphane Carbonneau pour parler de l'ours. Vivre avec cet animal est-il possible? Eh bien, c'est la question qu'il aborde dans la revue La Salamandre. Mais pour l'instant, c'est le moment de retrouver votre chronique détox, Caroline Tourbe. Avec une question, Caroline, le changement climatique va-t-il bouleverser notre alimentation?
Oui, Mathieu. Évidemment, lorsque l'on pense à l'augmentation des températures sur terre et en mer, à la modification du régime des pluies, à la migration des espèces marines, on imagine instinctivement que tous ces bouleversements vont finir d'une manière ou d'une autre par se voir dans le contenu de nos assiettes. En Méditerranée, déjà, les pêcheurs commencent à perdre leurs repères, comme cet amateur, totalement déboussolé, interrogé par France Bleu Gare-Lozère.
On commence à voir des poissons comme la dorade, de la grosse dorade, qui normalement se pêchent pour du gros poisson, du poisson de 1 kg, 2 kg. C'est des poissons qui se pêchent normalement fin mai quand les eaux sont chaudes. Alors on sait que c'est des histoires de courants d'eau chaude, de courants d'eau froide. Pareil, une dizaine d'années qu'on a l'habitude de parler avec les pêcheurs plongeurs qui font de la chasse aux mains, qui pêchent des barracudas. C'était des espèces, des poissons, des liches qui sont des gros prédateurs. Des thons, il y en a de plus en plus. Tout est déréglé, tout est déréglé.
Oui, il a bien raison, hein, ce pêcheur, tout est déréglé. Alors évidemment, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ces dernières années, une multitude d'articles scientifiques ont permis de détailler les déséquilibres attendus ou déjà en cours dans les mers et sur Terre. Mais ce qui reste très rare, ce sont les études qui permettent de saisir les conséquences de tous ces petits changements dans la production alimentaire à l'échelle planétaire.
Et c'est tout l'intérêt, Caroline, d'une étude publiée à l'occasion de la COP25.
Oui, en combinant les modèles climatiques, avec des données mondiales sur la sécurité alimentaire, l'emploi, l'économie dans plus de 240 pays, des chercheurs internationaux ont mesuré l'effet du changement climatique sur les deux secteurs clés de l'alimentation, l'agriculture et la pêche. Cette étude, pilotée par Joachim Claudet, chercheur au CNRS, permet non seulement de mesurer l'évolution de la productivité de la pêche et de l'agriculture, mais aussi les possibilités d'adaptation des différents pays du monde. Résultat, si les températures augmentent en moyenne de 4,3 degrés d'ici la fin du siècle, comme le prévoit le GIEC si nos émissions de gaz à effet de serre ne diminuent pas, eh bien les chercheurs estiment que plus de 7 milliards de personnes seront affectées à la fois par une diminution des récoltes et des quantités de poissons pêchés, sans avoir les moyens d'y faire face, oui, vous avez bien entendu, c'est-à-dire 90% de la population mondiale. L'étude contient d'ailleurs des cartes qui sont très parlantes. On peut voir d'un seul coup d'œil les zones qui seront les plus durement touchées. Globalement, on peut dire que c'est la zone intertropicale avec l'Amérique latine, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique.
Alors à l'inverse, Caroline, il y a quand même des pays qui vont tirer des bénéfices du réchauffement. Hein.
Oui, ils ne sont pas très nombreux. Des régions où la terre et la mer se libèrent du froid et de la glace. On pense évidemment à la Russie, au Canada et aussi au Groenland. On écoute par exemple le témoignage emblématique d'un maraîcher groenlandais. Oui, oui, un maraîcher, un producteur de laitue, interrogé au printemps dernier par France Télévisions.
Cette sorte de laitue, je l'ai essayé deux fois. Mais je n'obtiens pas de bons résultats vu le climat actuel. Elle ne pousse pas assez vite. Celle-ci, en revanche, elle a l'air de mieux s'adapter. On va la garder. Attendons de voir ce qui va arriver. On ne sait pas comment ça va se passer l'année prochaine. Quels nouveaux changements vont se produire? Par exemple, on ne pensait pas que les arbres allaient se mettre à pousser. Et regardez ces sapins. Ils ont grandi très vite depuis quelques années.
Oui, alors des laitues, même des tomates qui poussent à l'ombre des arbres du Groenland, ouais, cela nous semble encore étrange, mais ce sera notre lot quotidien en 2100 si rien ne change. Et dans les faits, pour revenir sur l'étude, à peine 3% de la population mondiale va vraiment bénéficier du changement climatique avec à la fois de meilleures récoltes et des stocks de poissons plus importants.
Alors l'idée répandue selon laquelle les gains et les pertes de productivité pourraient se compenser, Caroline, sur la planète n'est pas fondée.
Non, pas fondée du tout, je le redis, 90% de perdants contre à peine 3% de gagnants. Si nous continuons ainsi, Il faut donc oublier cette idée fausse. Mais comme me l'a expliqué Joachim Claudet, le chercheur qui a piloté l'étude, il reste un espoir.
En respectant l'accord sur le climat, évidemment, hein, ça permettrait de limiter la déflagration,
oui,
des choses comme ça.
Oui, avec le maintien du réchauffement en deçà de 2 degrés, le nombre de personnes confrontées au double déclin des récoltes et des stocks de pêche serait déjà réduit d'un tiers. C'est déjà bien, ça représente encore tout de même 60% de la population mondiale, mais en réalité, là où l'effet positif se verra le plus clairement, c'est sur l'ampleur des pertes attendues. Pour l'agriculture, la productivité baisse uniquement de 5% si nous respectons l'accord de Paris, alors qu'elle chute de 25% dans le premier cas, celui où nous n'agissons pas pour limiter le réchauffement. Pour la pêche, les pertes seraient de 15% si l'accord de Paris est respecté, alors qu'elle dépasse les 60% si nous ne faisons rien. Enfin, et c'est un point qui mérite d'être souligné, alors que la COP25 s'est terminée sans grandes avancées, même les 15 pays les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, les États-Unis, la Chine, l'Arabie Saoudite, eh bien ces pays pourraient bénéficier d'un changement du climat moins brutal.
Merci beaucoup Caroline Tourbe. Votre chronique détox, bien sûr, est à réécouter sur la page de la Terre au Carré. À bientôt.
France Inter. La Terre au Carré. Vos solutions pour la planète.
Et c'est Claire qui est en ligne avec nous aujourd'hui, à quelques jours de Noël. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans vos solutions pour la planète. Vous êtes la fondatrice de l'association Rejouer. C'est une association d'insertion sociale et professionnelle autour de la seconde vie des jouets. D'abord, j'imagine que ça commence quand même à beaucoup fonctionner là en ce moment, à quelques jours des fêtes.
Tout à fait. C'est le plein en termes de, à la fois de collecte, parce que c'est un moment où les citoyens veulent donner leurs jouets pour en accueillir des nouveaux aussi bientôt. Et puis, c'est aussi la période où on va faire des cadeaux pour les enfants. Donc, une grande période de vente aussi pour notre association.
Alors, comment est née justement l'association Rejouer ? Expliquez-nous son histoire.
Alors, elle est née d'un constat que j'ai vécu en fait en tant que maman, puisque j'ai eu un petit garçon et j'ai été confrontée à ce monde de la surconsommation de jouets. On m'en a beaucoup offert pour mon fils Adrien, et puis j'étais aussi bénévole à la Croix-Rouge dans mon arrondissement et ils en collectaient énormément. Ils ne savaient plus quoi faire avec, malgré le fait qu'il y ait des enfants à Noël qui n'aient pas beaucoup de jouets et l'arbre de Noël qu'ils organisaient. Il n'y avait pas assez de bénévoles en fait pour faire cette revalorisation. Parce que les jouets sont très très différents, il y en a énormément en termes de quantité et de qualité, et ça demande en fait toute une chaîne de production et qui n'était pas possible dans le local de la Croix-Rouge. Donc j'ai décidé de me lancer sur dans la création de ce type d'activité qui mêle à la fois insertion sociale et professionnelle, et donc éviter une énorme quantité de 100 000 tonnes de jouets qui vont à la poubelle par an en France.
C'est énorme. Et Claire, justement, vous parlez de cette chaîne de production, ça ressemble à quoi? Vous recevez, donc j'imagine, des centaines, des milliers de jouets. Vous avez un atelier. Comment ça se passe?
Tout à fait. On a un atelier de production. On est dans un ancien centre de tri postal de plus de 2500 m² à Vitry-sur-Seine. Et donc, on a toute une chaîne organisée de production qui commence par le tri. Donc, on va trier selon le marquage CE les jouets et regarder s'ils fonctionnent encore, s'ils ne sont pas dangereux pour les enfants, s'ils sont complets. Et ensuite, on va les recomposer. S'il manque une pièce, on a une banque de pièces détachées. On va retrouver la pièce manquante. On va rhabiller des poupées ou on va faire des assortiments de dinettes, et ensuite tout est nettoyé à la fois à la machine à laver pour tous les textiles, doudous, peluches, poupées molles, et puis machine à laver la vaisselle pour tout ce qui est jouets en plastique, briques, petites voitures, et puis tout ce qui n'est pas lavable en fait en machine est lavé manuellement avec des produits écologiques, une formule magique, bicarbonate de soude, vinaigre et eau par les salariés en insertion. Et ouais. Ensuite, dernière étape, on a un contrôle qualité pour vérifier qu'ils sont bien complets, bien propres. Et puis on fait un emballage assez simple quand il y a des petites pièces pour pas que ça se perde avant qu'ils ne soient vendus.
Est-ce qu'il y a des jouets que vous refusez de garder ?
Par exemple, les peluches qui n'ont plus de CE, on ne connaît pas l'origine de la peluche, on ne sait pas s'il a une autorisation de mise en marché première, et donc on le supprime. Il y a d'autres jouets qui sont rappelés parce qu'ils ont des problèmes de sécurité dans un logiciel qui s'appelle RAPEX au niveau européen, donc on regarde sur ce logiciel qui est rappelé comme produit et on élimine ces jouets. Alors on les trie en fait en fonction de la composition des matières dont ils sont faits et on essaye de les envoyer vers des filières de recyclage quand elles existe. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de filières de recyclage, notamment des plastiques. Mmh. Il y a plusieurs types de plastiques utilisés dans les jouets, donc c'est très complexe. Seule la filière qui s'apparente à la filière des D3E, des déchets électriques électroniques, va reprendre en fait les jouets qui ont des circuits électriques. Quand ils ne fonctionnent plus, on enlève des piles et on les dirige vers cette filière de recyclage.
Et combien, par exemple, l'an dernier, à combien de jouets vous avez donné une seconde vie pour avoir une
Alors,
idée?
On a valorisé plus de 53 000 jouets. On a collecté 65 tonnes, on en remet à peu près 2/3 en circulation. Et puis on en a vendu un peu plus de 36 000 dans nos deux boutiques. Et puis auprès des professionnels de l'enfance, que sont les crèches, les centres de loisirs, les écoles, les ludothèques.
Et Claire, vous êtes capable d'estimer votre vertueux bilan carbone, on pourrait dire les choses comme ça ?
Effectivement, tous les jouets qui sont rachetés et qui ont une deuxième vie, en fait, permettent d'éviter de générer du carbone. Donc, c'est l'équivalent de plus de 54 000 voitures qui consommeraient en une journée de l'essence, ce qui est plutôt pas mal. On pourrait faire encore mieux si on avait plus d'espace et, oui. et si on généralisait cette consommation de seconde main de qualité.
Et combien de personnes alors travaillent dans l'atelier, puisqu'on le disait tout à l'heure, c'est aussi une association d'insertion sociale et professionnelle?
Oui, alors on accompagne 46 salariés en insertion qui sont plus d'une majorité de femmes en situation de monoparentalité. Et puis on les accompagne sur une durée en moyenne de 1 an et demi pour qu'elles sortent des freins à l'emploi, c'est-à-dire on les accompagne pour résoudre les problématiques de logement, de santé, de garde d'enfants parfois. Mmh. Et on les accompagne aussi pour qu'elles construisent pendant le temps de travail un projet professionnel et qu'elles puissent se projeter vers un travail durable. Toutes ces personnes permettent à ces jouets de retrouver une seconde vie et ça donne à la fois du sens dans ce qu'elles font et ça donne du sens aussi pour l'environnement. Donc elles sont majeures dans la réussite de notre activité.
Et les parents aujourd'hui achètent de plus en plus facilement des jouets qui ont déjà servi, Claire ?
Ah oui, ils en achètent de plus en plus. Nous, on les voit dans l'augmentation de notre chiffre d'affaires à la boutique. Mmh. Dès lors qu'ils sont vraiment rassurés sur la qualité du jouet, sa propreté, le fait qu'il soit sûr. Et donc, c'est vraiment cette qualité-là sur laquelle on travaille vraiment très fortement. Et aussi, ça va jusqu'à la présentation de ces jouets dans les boutiques. Et c'est par cette démonstration faite de qualité que on engagera de plus en plus de parents à en acheter parce que ils verront que c'est différent de ce qu'ils trouvent en brocante, par exemple. C'est comme neuf.
Et il y a donc deux boutiques, hein, rue du Château à Paris, dans le 14e, 140 rue du Château, et l'autre dans le centre commercial Quai d'Ivry à Ivry-sur-Seine. Merci beaucoup, Claire. Ça s'appelle Rejouer. C'est votre association. Bravo pour cette initiative. Et on met tous les liens sur le site de La Terre au Carré. À bientôt, Claire, et très bon Noël à vous, déjà avec un peu d'avance.
Merci beaucoup.
Et bon courage.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Si vous aussi, vous avez une solution pour la planète, eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. Tous vos projets nous intéressent, qu'ils soient individuels ou collectifs. C'est Chantal Le Montagnier qui vous accueillera. Il suffit de nous envoyer un petit message. On vous rappelle très vite. Vous allez sur le site de l'émission à la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr. Et dans un instant, notre invité découverte va nous parler de cohabitation avec les ours après Tame Impala.
It's My Be Time. Tame Impala à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Suspendu à cet hélicoptère de la gendarmerie, l'ours slovène fait son entrée dans les Pyrénées. Toute la journée, les anti-ours bloquent des routes pour protester contre la réintroduction de l'animal qui menace leur troupeau. Ils promettent de le traquer sans relâche.
Il va y avoir du monde dans les montagnes ces jours-ci, quoi. C'est sûr.
On va démarrer la campagne d'effarouchement parce que c'est des bêtes, on ne veut pas les garder ici.
Déterminés, les opposants à l'ours pensaient que l'animal arriverait par la route. Alors la nuit dernière, ils ont fouillé tous les véhicules. Parmi les anti-ours, de nombreux bergers qui ont le sentiment de ne pas être entendus.
On n'a plus rien à perdre maintenant. Hein.
Voilà, on n'arrive jamais à faire du dialogue.
Non. Ça fait 6 mois.
Il n'y a jamais eu de dialogue. Arrêtez un peu. Ça va.
Voilà, c'était en octobre 2018 sur France 3. Bonjour Stéphane Carbonneau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes naturaliste et auteur de nombreux livres sur la relation entre l'homme et la nature, dont cet ouvrage Cantique de l'ours, publié aux éditions Transboréales. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Béarn à Pau. Et la revue La Salamandre consacre donc ce mois-ci un grand dossier à l'ours. Et vous essayez de répondre à cette question. Vivre avec l'ours est-il possible? Est-ce que le cas d'abord de cet animal est comparable à celui du loup? Est-ce que finalement les problématiques sont assez similaires?
Alors on peut tracer des analogies, mais il y a de profondes différences aussi. Le loup est un animal beaucoup plus prédateur que l'ours, et qui revient d'abord spontanément. L'ours a été réintroduit dans les Pyrénées, donc deux cas quand même somme toute assez différents, hein, mais qui présentent des analogies, mais il faudrait beaucoup plus de temps pour en parler.
Ouais. Alors justement, le conflit entre l'homme et l'ours est toujours très présent. On entendait dans le sujet de France 3 il y a un instant qu'il n'y avait pas de dialogue réellement. C'est ce que vous ressentez, vous, sur le terrain? C'est toute la difficulté à pouvoir dialoguer de part et d'autre?
Alors on peut dialoguer, mais tout dépend ce qu'on entend par dialogue. Malheureusement, souvent le dialogue instauré par l'État est une concertation très réglementaire, très courte, qui en fait est une concertation qui précède une décision déjà prise, donc, par exemple de réintroduction. Donc c'est très mal vécu par la fraction la plus radicale. Et je plaide avec d'autres pour un dialogue avec un autre paradigme, et évidemment un dialogue qui n'est pas précédé de décisions politiques. Donc c'est un dialogue beaucoup plus profond et plus long, et qui effectivement produira, on l'espère, des effets positifs, mais à long terme.
Combien il y a d'ours aujourd'hui dans les Pyrénées? Vous pouvez nous le rappeler?
Alors c'est la réintroduction qui a commencé en 96 est quand même, il faut le dire, une réussite biologique, puisqu'il y a 45 ours officiellement dans les Pyrénées. Et il y en aura plus au printemps, puisque chaque année on a des naissances, donc c'est une population qui augmente. Mais avec l'augmentation du nombre d'animaux, on a une augmentation des problèmes et des conflits. Et malheureusement, ces conflits n'ont jamais cessé. On peut dire que même qu'ils enflent dangereusement dans certaines parties des Pyrénées. Et pour moi et d'autres, c'est un échec diplomatique qu'il faut assumer aujourd'hui.
Les conflits, c'est les attaques de troupeaux, hein, c'est ça quand vous parlez de conflits.
Alors, les attaques des troupeaux qui génèrent des conflits très forts entre les hommes et les animaux, et puis entre hommes, c'est-à-dire entre la fraction pastorale très opposée aux prédateurs, ours et loups maintenant mélangés, parce qu'on a quelques loups dans les Pyrénées, et puis ceux qui sont favorables à cette présence, dont moi, mais qui me situe, on va dire, à l'écart du monde militant, et donc ces conflits qui, en fait, empêchent un développement territorial intéressant autour de la nature et des ours en particulier, parce qu'on ne peut rien développer lorsque vous avez des conflits aussi lourds, des menaces de braconnage, des gens qui sortent des armes. C'est malheureusement la réalité dans une partie des Pyrénées aujourd'hui.
Stéphane Carbonneau, justement l'archive de France 3 qu'on entendait, qui date donc d'octobre 2018, l'année dernière, il s'agissait de réintroduire deux ours femelles slovènes. Ça s'est quasiment fait de façon cachée, hein, clandestine, non?
En effet, parce qu'une fraction mais très influente et qui se mobilise fort bien, hein, en bloquant des routes, en occupant le territoire, n'en voulait pas du tout. Alors c'était une décision intéressante dans le sens, au plan biologique, puisqu'il n'y avait plus d'ours dans les Pyrénées occidentales, puisque ces femelles ont été lâchées en Béarn, où il n'y avait plus que des mâles. Donc c'était effectivement une nécessité à terme, mais malheureusement, et je fais partie de ceux qui disent que ce dialogue, un vrai dialogue, n'a pas eu lieu. Et qu'évidemment, décider de manière, on va dire, unilatérale, même s'il y a eu des pseudo-concertations à mon sens, ne fait que renforcer un état de tension qui est néfaste pour tout le monde en fait, hein, y compris pour les animaux d'ailleurs.
Tout à l'heure vous parliez de nouvelles solutions qui étaient en discussion, mais que ça serait un processus très long. Comment concrètement on peut réussir à trouver un terrain d'entente entre des éleveurs et des gens qui veulent garder les ours? Enfin, je veux dire, si on met des ours, il y aura forcément des attaques de troupeaux. A priori, à moins de je sais pas, faire des lieux complètement préservés.
Alors je plaide pour une cohabitation, c'est-à-dire que c'est une cohabitation entre animaux libres, donc sans clôture. La première chose que les défenseurs de l'ours devraient faire, et je l'ai fait moi à titre personnel, c'est de faire un bilan critique de cette réintroduction qui a commencé il y a plus de 23 ans, enfin beaucoup plus si on prend en compte la perte de conception, et faire un bilan critique qui n'a jamais été fait. Donc c'est-à-dire que les défenseurs de l'ours doivent assumer cette part d'échec, hein, l'État aussi, et les éleveurs radicaux aussi, parce que tout le monde a sa part. Ça sera déjà une bonne chose de faite. Et puis deuxièmement, d'ouvrir un vrai dialogue. Et alors, je vais vous donner un exemple. En Ariège, entre 2017 et 2018, avec le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, différentes associations, et y compris internationales, puisque les plus grands experts ours nous ont soutenus, des Catalans, des Néerlandais, une association française qui s'appelle AVES, et donc les élus et responsables de ce parc d'Ariège, nous avons lancé un processus de dialogue qui portait sur la valorisation de la biodiversité, y compris les espèces prédatrices dont l'ours, au sein de ce parc. Évidemment, on n'a pas réglé le problème de la cohabitation avec les ours, mais enfin, on a posé les bases d'un dialogue sincère et franc. Et nous pensons que c'est une voie à creuser dans les Pyrénées. C'était une expérimentation d'ailleurs nouvelle pour la France. Et nous avions un médiateur canadien qui œuvre sur 3 continents depuis 25 ans pour résoudre des conflits de ce genre. Et il a quand même avoué à la fin du processus, en avril 2018, que c'était le cas le plus difficile de sa carrière. Donc c'est un conflit très enquisté et qui nécessite un vrai dialogue. Mais jusqu'à présent, à part notre expérimentation, il n'y a pas un vrai dialogue. Et c'est ça le problème.
Stéphane Carbonneau, juste pour qu'on comprenne bien, ça sert à quoi finalement de réintroduire des ours dans un milieu tel que les Pyrénées aujourd'hui, au-delà peut-être même de la conservation qu'on peut bien comprendre, mais quel est l'apport positif pour un milieu?
Alors, au plan biologique, c'est un apport très important. C'est une espèce qui est en haut des chaînes trophiques. Mais il y a, ça on le sait, on pourrait en disserter longtemps, mais il y a un aspect très puissant entre l'ours et l'homme dans les Pyrénées, et d'ailleurs dans l'Europe et dans l'Eurasie en général depuis des millénaires. C'est un animal avec lequel on a tissé des liens culturels et même parfois spirituels de très longue date. Donc c'est une relation très spéciale, c'est évidemment un garant du maintien d'une belle biodiversité, d'une nature riche. Donc tout cela fait que c'est vraiment nécessaire. Mais je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas, si vous voulez, imposer des espèces qui causent des dommages à certaines parties de la population.
Allez, on va pouvoir conclure pour vous laisser finir.
Oui, je voulais comme citer, c'est très intéressant, dans les Pyrénées la situation évolue quand même. Par exemple, la rédaction de Pyrénées Magazine, qui est un magazine influent dans les Pyrénées, a titré en novembre-décembre un éditorial qui s'intitule « Dans l'impasse ». Et Florence Garès a bien décrit la situation telle que je la vis et d'autres la vivent, effectivement en plaidant pour un véritable dialogue qui malheureusement est rompu aujourd'hui. C'est vraiment la priorité, à mon sens et à notre sens, aujourd'hui, de rétablir un vrai dialogue.
Ouais. Vous avez été un militant assez radical, vous, au début. Hein
oui, mais j'ai totalement changé.
On vous sent plus mesuré aujourd'hui dans votre discours, pas les dialogues, de médiateurs.
Alors, je suis toujours très passionné, mais j'ai rompu avec cette vie d'avant. Et ce qui m'a fait évoluer, c'est d'aller vivre dans un village de moyenne montagne, en Vallée d'Ossau en l'occurrence. Et là, j'ai beaucoup évolué. Et puis des rencontres avec un grand nombre de personnes.
Ouais. Et des ours, vous en avez beaucoup rencontré, des ours ou pas?
Oui, mais alors dans les Pyrénées, j'ai pas encore cette chance. Oui. Beaucoup de traces, mais en Slovénie, en Espagne, oui.
Merci beaucoup en tout cas, Stéphane Carbonneau. On peut lire donc votre interview dans ce numéro de La Salamandre, la revue des curieux de nature, dont je rappelle qu'elle n'est disponible que sur abonnement, lasalamandre.net, si vous avez envie de découvrir donc ce dossier et bien d'autres encore. Camille Cronier.
Mais alors, je vous dis à l'année prochaine, hein, Mathieu.
Le temps des vacances est arrivé.
On part en vacances.
Et à partir de lundi et pendant les 2 semaines qui arrivent, c'est Élodie Font qui sera aux commandes de l'émission. Bonjour Élodie.
Bonjour.
On va donc vous laisser les clés de la maison.
Merci, c'est gentil.
On va demander aux auditeurs de vous faire un bon accueil à partir de lundi. Vous avez votre sujet de lundi en tête déjà ou pas?
Oui, Elisabeth Laville, qui est consultante et avec laquelle on parlera des 10%. Si 10% de la population s'intéresse au changement climatique et change des choses, eh bien 10% ce serait déjà énorme et ça pourrait vraiment faire évoluer la société.
Il pourrait même arriver à faire convaincre ceux qui, pour l'instant, ne font pas grand-chose.
Exactement.
On vous souhaite donc 2 semaines très agréables.
Merci,
à l'antenne.
Merci.
Noël à l'antenne aussi.
Très joyeux Noël, à très bientôt.